Beurre FM, au cœur des quartiers.
Aujourd'hui dans Au cœur des quartiers, podcast un peu spécial, nous partons à la rencontre de Racha Belmehdi, née en Algérie, passionnée d'écriture, ayant vécu dans différents pays. Tu as posé tes valises en région parisienne à Courbevoie dans le 92 et tu as publié un très beau livre Rivalité non féminin, non N-O-M. Bonjour Racha.
Bonjour.
Ça va, tu vas bien?
Bah ça va très bien et toi?
Oui, je suis ravie de te recevoir. J'ai vu dans la story d'une amie, il y avait une petite polémique concernant ton livre qui est très très bien écrit, c'est vrai. Et ce qui m'a absolument surprise, c'était ton livre, tes idées avaient été reprises dans une grande émission, dans une grande chaîne de télé, mais toi, tu n'as jamais été cité. On va bien sûr en reparler dans ce podcast Au cœur des quartiers, mais avant ça, j'aimerais que les auditeurs apprennent à te connaître, sachant qui est Racha Belmehdi et comment tu as grandi.
Donc, je suis née en Algérie en 85. Très vite, à l'âge de 5 ans, on est parti vivre en Côte d'Ivoire avec mes parents, dans le cadre de l'affectation de mon père. Ensuite, on a vécu quelques années en Russie, puis dans les années début 2000, on est arrivé en France et voilà. J'ai plus bougé. Toujours été dans des écoles françaises depuis toujours, c'était plus simple parce que c'est des écoles qu'on retrouve absolument partout dans le monde.
Comment ça s'est passé du coup ce contraste entre les différents pays puis d'un coup arriver en France? Comment tu l'as vécu?
Bah disons qu'une fois arrivée en France, j'ai vraiment fait l'expérience du racisme. C'est-à-dire que j'avais déjà fait l'expérience de la minorité dans les autres pays où j'avais vécu, donc ça avait jamais été un problème jusque-là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment tout l'imaginaire colonial qui était un peu plaqué sur moi. J'ai subi beaucoup de racisme de la part de l'administration scolaire, de la part de mes profs, de la part d'autres élèves. Je l'avais jamais vécu en Russie, je l'avais jamais vécu en Côte d'Ivoire. Au contraire, on était très très bien accueillis partout et la France c'était assez spécifique.
Et à l'école pourtant t'étais une bonne élève.
J'étais bonne élève jusqu'à ce que j'arrive en France. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré l'école. Et puis ensuite voilà, il y a eu des problèmes de harcèlement scolaire, de choses comme ça. Et là c'est devenu quelque chose de vraiment difficile pour moi. Je détestais le collège.
Alors, ça a peut-être rien à voir, mais le harcèlement scolaire tu l'as subi parce que tu venais d'arriver en France ou
sans que c'est en partie pour ça, j'avais reçu un super surnom, c'était la blédarde. Ce terme que je vous invite à tous éliminer de votre vocabulaire, tellement il est connoté et dégoûtant.
Le métier que tu fais, c'est écrivaine? Tu es journaliste aussi en même temps?
Alors au départ, j'ai été journaliste, mais c'est un métier que j'ai laissé tomber à cause de la précarité, c'était très compliqué. Okay. Je pense aussi que c'est assez... il faut quand même coller à une certaine catégorie quand on veut exercer ce métier en France. Okay. Donc moi, c'était un petit peu compliqué et j'ai préféré faire autre chose. Mais j'ai toujours aimé écrire et voilà, d'où le livre.
Et à l'école, justement, comment tu as fait pour partir vers ces filières-là qui sont peut-être plus journalistiques?
Alors là, c'était vraiment mal parti parce que quand j'étais au collège, l'administration avait décidé que j'étais faite pour faire un BEP. Quand bien même j'avais des notes largement au-dessus de la moyenne, ça a été vraiment très 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 particulier. Donc ils voulaient à tout prix m'orienter vers un BEP. Donc c'était... ils ont vraiment forcé. Mon père n'a rien voulu savoir. Mon père était scandalisé. Lui qui valorise tellement les études. Il était vraiment outré. Il a décidé que non, que je redoublerais ma troisième plutôt que d'aller en BEP. Mais c'était vraiment une année très 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 compliquée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des noms à consonance bien française, qui eux pour le coup pouvaient passer en seconde générale alors que ils avaient des notes en dessous de la moyenne. Mais moi qui avais des notes au-dessus, je ne pouvais pas.
Fallait que tu prouves.
C'est ça, parce que mon profil était mieux pour un BEP apparemment, de ce que j'ai compris.
T'as beau travailler plus que les autres, tu as beau avoir un très bon profil, avoir de bonnes notes, il va falloir que tu prouves un milliard de fois plus pour pouvoir avoir la même chose que les autres. Tu vas devoir redoubler d'efforts, et ça c'est un discours que j'entends beaucoup dans Au cœur des quartiers.
Complètement, c'est-à-dire que quoi que je fasse, c'était jamais suffisant de toute manière. Donc au bout d'un moment, on essaie de s'orienter ailleurs et de trouver autre chose, de trouver sa propre voie, ouais. Après j'ai fait une école de journalisme, qui est une école, aujourd'hui elle se trouve dans le 13e, à l'époque elle était dans le 12e, ça s'appelle l'ICP. Donc j'ai fait 5 ans là-bas et puis après je me suis lancée.
D'où t'es venue cette idée d'écrire le livre? Est-ce que t'écrivais toi-même de ton côté? Un jour tu t'es dit je vais essayer de publier toutes mes idées?
Ça a toujours été un rêve qui était un peu dans un coin de ma tête et je me mettais beaucoup de barrières. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu le publier il y a 5 ans ou même plus, mais je me mettais beaucoup de barrières en me disant que ça allait être compliqué pour moi et tout ça. Effectivement, ça a été compliqué, mais c'était pas impossible. C'est né de plusieurs expériences personnelles, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein de fois dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle des histoires de rivalité féminine et des espèces de frictions qui naissaient de rien du tout, qui n'avaient pas forcément de raison objective. Et puis je me rendais compte que beaucoup de femmes autour de moi avaient ce genre d'histoire. Je me rendais compte qu'on baignait vraiment dans une culture qui nous inculquait la rivalité féminine, que ce soit dans la littérature, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la musique. On était tout le temps en train de mettre les femmes en opposition, en train de les comparer en permanence. Et je me suis dit, en fait j'ai cherché, je voulais lire un livre sur la rivalité féminine et j'ai pas trouvé quelque chose de complet qui pourrait compiler des exemples de pop culture et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais écrire le livre que j'avais envie de lire.
Ton livre s'appelle Rivalité non féminin, non NOM, pour montrer qu'il y a vraiment un problème peut-être dans nos relations féminines. C'est ce que tu disais, ça a été ton vécu, tu as voulu l'écrire. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a fait écrire ce livre où tu t'es dit ça y est, stop, il faut que je l'écrive, il faut que j'en parle, c'est important?
Ah oui, même plusieurs. La dernière, c'était vraiment dans un environnement professionnel où j'étais... en fait, il y avait une manager à moi qui était d'origine algérienne comme moi en plus, qui m'avait prise en grippe sans la moindre raison. Mais vraiment sans la moindre raison. Et en fait, elle s'était vraiment focalisée sur moi. On en était arrivé à un point où elle me chronométrait quand j'allais manger, elle me chronométrait quand j'allais aux toilettes. Elle m'avait dit que j'avais besoin d'un certificat médical pour avoir le droit d'aller aux toilettes. Enfin, c'était complètement absurde. Moi, j'ai refusé de rentrer en rivalité contre elle parce que je me disais de toute manière, j'avais pas du tout envie de m'opposer à une femme, encore plus une femme d'origine algérienne, quoi. Pour moi, c'était au contraire, on aurait dû plutôt serrer les coudes et être soudés parce que je pense que la société est assez difficile pour nous comme ça. Qu'en plus on se mette des bâtons dans les roues. Donc moi j'ai refusé de rentrer en confrontation avec elle, j'ai laissé faire les syndicats, j'avais aucune envie de me battre.
Dans une émission qu'on ne va pas citer, une jeune journaliste avait cité tes idées, tes phrases qui sortent justement de ce livre Rivalité non NOM féminin, écrit par Racha Belmadi, la femme algérienne que tu es. À ton avis, pourquoi on a récupéré tes idées mais toi on ne t'a jamais appelé?
Il y a une longue tradition qui existe d'invisibilisation des personnes racisées dans le savoir. On a vraiment tendance à oublier les contributions de personnes racisées au savoir en règle générale pour favoriser justement l'image qu'on a qui est plutôt celle d'une personne blanche qui diffuse la lumière.
On a beaucoup d'assos afro-américaines qui critiquent beaucoup par exemple le clan Kardashian en disant qu'elles ont de grands ongles, elles font des nattes, elles ont redessiné plutôt leur corps des formes, on va dire clairement. Elles ont vraiment redessiné leur corps comme une femme africaine, mais elles ne défendent pas la culture afro-américaine, elles prennent juste ce qu'il y a de beau. Et je sais aussi que Kiddy Smile, peut-être que tu vois qui c'est, qui est un DJ spécialisé dans le voguing, qui avait dit une phrase, de toute façon, quand c'est noir et que c'est bon, tout le monde prend. Et je pense que c'est un peu ce qui t'est arrivé, c'est que quand les idées, entre guillemets, d'une femme arabe sont bien, on va les prendre. Mais par contre, est-ce que toi, on t'a proposé d'aller animer une émission, d'aller présenter justement ton livre au sein d'une émission? Pas du tout, j'imagine.
Non, pas une émission de télé, ou alors juste une émission de télé en Suisse, le JT. Mais oui, effectivement, je pense que c'était plus simple pour eux justement de servir dans mon livre à moi. Il y a eu d'autres livres qui sont sortis sur la rivalité féminine qui ont été écrits par des autrices blanches, par des grosses maisons d'édition françaises. Et je pense que celle-ci, c'est plus difficile d'aller se servir parce qu'il y aura, de meilleurs moyens de défense. Et ce sera peut-être plus visible, alors que moi, ça sera discret, ça se verra pas, et on a supposé que j'avais aucun moyen de me défendre finalement.
Et justement, l'essor des réseaux sociaux, ça a pu t'aider?
Alors là, j'étais vraiment la première surprise, parce que moi, quand j'ai posté ça sur mon Instagram, j'avais 500 abonnés seulement, donc c'était un tout petit compte. J'imaginais pas que ça aurait un tel retentissement. J'imaginais pas que sur Twitter, ça allait autant se déchaîner. Moi, je suis pas sur Twitter, je trouve que c'est un espace très violent, donc j'ai pas forcément vu. Mais on m'a montré tout ce qui se disait, j'étais complètement abasourdie, mais vraiment ça m'a fait énormément de bien, tout cet élan de soutien, tous les gens qui justement m'ont cru, déjà surtout parce que c'est hyper important, parce que il y a eu 2-3 personnes qui ne me croyaient pas et qui ont accepté sans les questionner les explications de la chroniqueuse par la suite, enfin ses justifications. Mais voilà, l'essentiel est là, c'est que voilà, en immense majorité les gens étaient de mon côté, m'ont énormément soutenue et ça m'a fait énormément de bien.
Dans Cœur des quartiers, on a un petit espace qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Il faut que tu répondes à 3 petite question. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a extrêmement touchée?
Moi, ce serait mon motto dans la vie, c'est « memento mori ». C'est en latin, c'est « souviens-toi que tu es mortel ». Et ça permet, je pense, de prendre beaucoup de distance avec les petits problèmes du quotidien, les petits tracas du quotidien. D'ailleurs, quand j'étais dans cette polémique absurde avec cette émission-là, c'était au même moment que le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, et justement ça m'avait permis de prendre beaucoup de distance par rapport à ça et de me dire finalement ce que je vis c'est quand même pas grand chose par rapport à ce que vivent d'autres personnes.
La deuxième petite question, est-ce qu'il y a une personne qui t'a toujours soutenue dans tes projets quand ça n'a pas été facile, j'imagine que même peut-être pendant cette période où tu t'es arrivée en France et que tu as vécu de plein fouet l'harcèlement, le racisme, la discrimination.
Alors c'est un peu cliché, mais mes parents, forcément, mes parents ont été vraiment irréprochables là-dessus. Mes parents ont vraiment essayé de tout faire avec l'administration scolaire pour que ça se passe mieux. Mon père n'a pas du tout baissé les bras quand on m'a dit que mon destin c'était de faire des études courtes et d'être très vite sur le marché du travail. Pour lui, c'était absolument hors de question. Il m'a toujours soutenue par rapport à ça. Il m'a toujours dit, ah ben non, toi, c'est hors de question. Il faut que t'aies au moins un master 2. C'est hors de question que tu fasses autre chose, quoi. Et il m'a toujours boosté. Il m'a toujours incité à viser très, très haut, à viser le plus loin possible.
Qui est la personne qui t'inspire le plus dans la vie?
Alors, il y en aurait deux. Alors, en premier, encore une fois, c'est très cliché, mais c'est ma mère. Parce que ma mère, elle a vraiment une espèce de don de vie qui est quand même incroyablement puissant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera toujours attaché à la vie, qui se laisse abattre par rien. Elle a vécu des choses très compliquées dans sa famille. Elle a perdu beaucoup de membres de sa famille dans des conditions vraiment terribles. Et pourtant, c'est quelqu'un qui reste extrêmement fort et qui regarde toujours vers l'avenir, qui regarde jamais en arrière. Et sinon, dans un autre registre, un tout autre registre, ce serait une chanteuse, c'est Kate Bush, que j'adore, et qui m'inspire énormément parce que c'est une personne qui n'a jamais cédé sur ce qu'elle avait envie de faire. Elle a toujours fait tout ce qu'elle avait envie de faire. Quand elle a décidé de s'arrêter, elle s'est arrêtée, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle sort un album tous les 10 ans. Elle est vraiment d'une liberté totale et ça m'inspire énormément, oui.
Merci beaucoup pour ton honnêteté. J'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à un jeune ou une jeune qui est en train de nous écouter, peut-être qui a un peu ce même profil que toi, qui est arrivé en France et qui a vécu de plein fouet la discrimination, le racisme, qui est passionné peut-être de journalisme, qui rêve d'écriture, qui rêve d'écrire son propre livre, mais qui se dit qu'il va pas y arriver. Quel conseil t'as envie de lui donner?
Alors moi, mon conseil, ce serait vraiment de jamais sous-estimer la culture, de toujours développer sa culture en permanence, de toujours essayer de lire, d'être extrêmement curieux en permanence. Ensuite, il faut pas se laisser. Il faut toujours se dire que voilà, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, se lancer. Ne pas hésiter à se lancer. On va se prendre des portes dans la figure, ça c'est sûr et certain, mais il y en aura une à un moment qui s'ouvrira.
Merci beaucoup Racha, j'étais ravie de te recevoir. Racha,
merci
belle
beaucoup.
Merdi avec
belle
le
merdi,
H.
Voilà.
Parce qu'on n'oublie pas et on est fiers. Peu importe notre passé, qu'il soit houleux ou pas, qu'il soit douloureux ou pas, c'est en se construisant avec tout ça qu'on réussit à faire de grandes choses dans la vie et tu en es la preuve vivante. Je rappelle aux auditeurs et auditrices peut-être qui ont envie de se procurer ton livre qu'il s'appelle Rivalité non féminin, N-O-M, non féminin. Voilà, donc merci beaucoup Racha.
Ben merci à toi Mouna.
C'était Au cœur des quartiers, avec le soutien du ministère chargé de la ville.